merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle émission des carnets hebdomadaires de Comaguerre. Vous allez retrouver donc toute l'équipe au complet. Donc bonjour Roselyne qui est de retour chez nous.
Bonjour.
Bonjour Habib.
Bonjour.
Et bonjour à Brandon, que je salue et que je remercie, qui assure la technique très fidèlement de son côté. Voilà, merci Brandon d'être avec nous. Et je sais que tu as les oreilles bien attentives à ce que nous racontons, ce qui fait toujours plaisir. Merci de l'attention que tu nous portes. On va essayer de justifier cette attention quand même. Alors, je vais commencer par une nouvelle qui est peu médiatisée, mais qui est très très intéressante pour les conséquences politiques qu'elle peut entraîner. Il faut savoir que les services de renseignement des États-Unis, je pense que c'est le FBI, puisque c'est en interne, ont mis en circulation 40 000 heures de vidéos correspondant à la journée du 6 janvier 2020. Vous vous souvenez, hein, 6 janvier 2020, Biden vient d'être élu et une manifestation va vers le Capitole et donc il y a invasion du Capitole, etc. Vous avez tous des souvenirs de ces images-là. Alors, il y a eu les images, on en a eu. On ne peut pas dire qu'on n'a rien vu. Mais en fait, si vous savez qu'il est maintenant en circulation libre 40 000 heures de vidéos, on en voit beaucoup plus quand on prend le temps de tous les regarder. Alors, je ne sais pas si tout le monde les regarde en intégrale, ça fait un petit peu long, 40 000 heures. Mais en fait, il y a des gens qui sont allés voir quand même d'un peu plus près. C'est intéressant de comparer la version médiatique bien standardisée qui nous a été vendue dans les jours suivants, le 6 janvier, qui a permis d'ailleurs, je le signale et c'est important, de mettre en prison un certain nombre de citoyens des États-Unis qui y sont maintenant, pour avoir participé à une tentative de coup d'État, puis c'était ça, atteinte à la sûreté de l'État, etc. Bon. Et effectivement, alors je n'ai pas regardé moi non plus les 40 000 heures, je ne suis pas prêt de le faire pour être très sincère, mais en fait, il y a maintenant un certain nombre de journalistes aux États-Unis qui disent on a regardé, mais effectivement, tout ce qui pouvait ressembler à un coup d'État, là, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, c'est-à-dire, on voit en particulier la fraternisation entre les manifestants, les envahisseurs, je mets ça entre guillemets, qui rentrent dans le Parlement et qui discutent avec les vigiles, qui se tapent sur l'épaule, qui regardent le mobilier, qui regardent la qualité des parements au mur, la qualité du carrelage, qui sait que ça veut dire, mais c'est chouette, hein, le Capitole, on y vit bien, etc. Mais à aucun moment, il y a d'affrontement ni quoi que ce soit. Alors, ils vont un peu partout parce qu'ils sont évidemment plus nombreux que les gardiens. Mais c'est tout. Il n'y a aucun passage, aucun affrontement entre les gardiens. Donc les gardiens ne manifestent aucune inquiétude. Et si individuellement, ils pouvaient avoir de la sympathie pour le mouvement, ça peut arriver. Je pense que leur chef leur aurait dit « on ne les laisse pas rentrer ». Or, manifestement, ils sont rentrés tranquillement. Ils n'ont pas cassé toutes les vitres, toutes les portes, etc. Bon, donc ça redonne une autre profondeur à l'événement du 6 janvier 2020. C'est-à-dire, c'est pas exactement ce qu'on nous a dit. Et le coup d'État de Donald Trump, même s'il avait dit « allez-y manifester », ça, il l'a dit, nul ne songe à le nier, mais il n'a pas dit « cassez tout et mettez le feu au Capitole ». Ce n'est pas ça. Il n'y a pas eu, il n'y a pas un appel au coup d'État. Il dit « protestez ». Alors, il a dit, ça on verra plus tard, il a dit « les élections étaient truquées ». La justice, pour l'instant, n'est pas allée dans ce sens. Hein. Mais toujours est-il que la tentative de coup d'État a amené un certain nombre de citoyens des États-Unis en prison, où ils sont encore. Et donc, peut-être, ça sera l'occasion de revoir un peu les jugements en disant, regardez, on va peut-être voir la photo de, enfin, des bouts de vidéo où on voit chacun des emprisonnés, des condamnés à des peines de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, en train de serrer la pince à un gardien, de boire un coup aux frais du Capitole. Ça ne permet pas de rester en prison très longtemps. Donc, c'est très intéressant parce que ça recadre cet événement qui était important. Hein, ça a fait la une du monde entier pendant plusieurs jours. Ça recadre en plein début de la campagne électorale pour les présidentielles de l'année prochaine. Hein. C'est-à-dire, est-ce que Trump a organisé un coup d'État ? Si c'était un coup d'État, c'était un coup d'État, j'allais dire soft, hein, parce que ça y ressemble pas trop. Est-ce que les gens qui étaient là venaient pour effectivement renverser le pouvoir, abattre le service d'ordre et tuer des parlementaires ? On ne peut pas le prouver, ça, les images ne le disent pas. Hein. Donc c'est autre chose. C'est autre chose. Alors qu'un électorat mécontent de Trump, qui n'est pas. Enfin, peu importe, enfin, je ne juge pas l'électorat de Trump comparé à celui de Biden, mais est manifesté, qui pensait avoir gagné et qu'il avait perdu, qu'il ait été déçu, qu'il ait fait ça, bon, ça ne va pas très loin. Politiquement, ça ne va pas très loin. Et donc on ne peut pas en dire plus. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui le débat est nouveau, c'est-à-dire que Trump était déjà assez largement en tête dans les perspectives de vote. Bon, ça ne va pas du tout le défavoriser. Et en même temps, le camp des démocrates qui a beaucoup favorisé cette lecture du 6 janvier 2020 est en train de se dire « oulala, c'est en train de très très mal s'engager et il faudrait peut-être se débarrasser de celui qu'ils appellent maintenant « Sleeping Joe ». Le Joe qui dort, hein, ouais. Ou qui dort pas tout le temps, mais une bonne partie de la journée, et même devant les caméras. Bon, donc, effectivement, ça a l'air de rien pour nous, vu de loin, mais c'est un élément important dans la future campagne présidentielle qui est de fait déjà lancée, on le sait, et qui doit mettre l'état-major démocrate et les gens qui sont derrière un peu en angoisse, parce que qui mettre à la place de Sleeping Joe, qui sont les candidats, qui sera de taille à relever le gant, et qui va sortir et quel camp va sortir de cet affrontement entre les candidats à la présidence pour les démocrates. Car il faut bien se rendre compte que les démocrates, ce n'est pas du tout un bloc uni. Il y a d'abord des gens qui ont des intérêts dans leur région pour être sénateurs, etc. Il y a des gens qui sont carrément dans le lobby sioniste, c'est tout à fait clair, on les connaît. Il y a des gens qui sont là pour défendre les intérêts des vendeurs d'armes. Donc c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Et donc le choix des démocrates va être un moment douloureux si effectivement ils doivent se séparer de Sleeping Joe. Mais effectivement, présenter un monsieur qui ne pourra pas tenir de discours de campagne, il n'aura même pas la force. Enfin, vous savez qu'un candidat à la présidence des États-Unis, il est quand même obligé pendant au moins 6 mois, précédant le vote au mois de novembre de l'année fatidique, de se promener partout, de prendre 3 avions par jour, de serrer la main à des milliers de gens. Et il faut encore qu'il tienne debout, hein. Bon, alors là, on ne pourra pas envoyer... si, alors on enverrait un sosie, un double ou une marionnette, ou on fera ça en virtuel, bon, je ne sais pas, hein, ou en hologramme. Enfin, c'est un vrai problème pour les démocrates.
Il n'y avait pas le fils de Bob Kennedy qui était en lice pour les élections ?
Voilà, si. Oui. Alors, oui, mais il est très très mal parti. Non, il est très, en ce sens, non. Effectivement, on a formulé, quand il a déposé sa candidature pour les démocrates, donc Robert Junior, il s'appelle, on a dit très bien, voilà l'homme du renouveau des démocrates. Et il se trouve que dès le début de l'offensive du Hamas, il est tombé dans les rangs sionistes comme tout le monde. Ouais. Et donc, de ce côté-là, il n'y a rien à en attendre. Il a été sur le même chemin que tous les autres. Donc, il y avait un petit espoir qu'il tienne un autre discours. Et le seul sujet clé central dans la politique internationale sur lequel il était possible de tenir un autre discours, il ne l'a pas fait. Alors, j'en arrive même à me poser la question, est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour un monsieur qui est candidat à la présidence des États-Unis, donc c'est pas un jeune de 25 ans qui dit « j'arrive, je suis le meilleur », c'est quelqu'un qui a du métier, qui a des relations, qui a un peu d'argent, etc., qui va prendre le risque de dire « moi, les sionistes, je ne veux plus travailler avec eux ». Est-ce que ce monsieur-là survivra ? Je pose la question. Hein. Je suis très heureux de vivre en France où on peut dire ce genre de choses en ne risquant pas sa peau à la sortie de l'émission. Mais ce n'est pas du tout évident qu'un monsieur qui dirait sur CBS, sur une grande chaîne, « je suis contre les sionistes qui tiennent, enfin qui contrôlent trop le pouvoir aux États-Unis », combien de jours il aurait encore à vivre, hein. Et je... Ben oui, voilà. Alors donc, je voulais entamer ça parce que, en fait, ça m'a amené à revenir sur un sujet qu'on a déjà évoqué, mais qui est revenu à l'ordre du jour ces temps-ci et qui, vous allez voir, a un lien. Il s'agit de la bombe atomique israélienne. Alors, gros sujet, vous savez, donc, il y a un des ministres de Netanyahou qui a dit « Ah ben, s'il faut, on jettera sur Gaza », ce qui était une stupidité. Mais ça a amené beaucoup de gens à dire « Ah, mais enfin, ils reconnaissent qu'ils l'ont ». Alors, là, premier débat, ils reconnaissent qu'ils l'ont, mais on le sait qu'ils l'ont. Il y a même, à ma connaissance, M. Ehud Olmert, qui a été Premier ministre travailliste, qui l'a dit lui aussi. Hein. Donc dire qu'ils le reconnaissent, tout le monde le sait. Bon. Mais ça amène à faire un peu l'histoire, brièvement, l'histoire de cette arme atomique israélienne. D'abord, on sait où elle est. On sait où elle est, c'est-à-dire que ça se passe dans le désert du Negev, à proximité d'une centrale atomique, qui est dans un village, à côté d'un village qui s'appelle Dimona. Voilà, on sait que les bombes sont là. Alors le nombre varie selon les observateurs étrangers, puisque les Israéliens ne disent rien. Le nombre varie entre 80 et 200. Alors 80, c'est pas mal déjà, c'est autant que le Pakistan en gros. 200, c'est autant que la France, c'est encore plus important. Alors c'est évidemment hors jeu, comme la France elle-même ou comme la Grande-Bretagne, par rapport aux deux grands du nucléaire, qui sont les États-Unis et la Russie. Hein, où là, on est en milliers de bombes et pas en centaines. Bon, donc les autres sont joue petit bras, on dirait, en termes sportifs. Hein. Bon. Mais Israël fait partie du lot. Et comment on est arrivé à l'arme nucléaire israélienne? Alors, l'autre facteur d'aveu, ça a été le fait qu'un monsieur qui avait travaillé dans le centre de Dimona, qui s'appelait monsieur Mordecai Vanunu, hein, a fait, c'est une révélation dans un journal britannique il y a de ça une vingtaine d'années, un peu plus, a dit, mais effectivement, il y a des armes atomiques à cet endroit-là, j'y ai travaillé, je les ai vues. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il est arrivé à ce monsieur Vanunu? Alors, je le rappelle, ce monsieur Vanunu part en voyage à Beaujour, il se promène, il était citoyen israélien, il allait librement, et il se trouve en voyage à Rome. Et il est séduit par une jeune personne, hein, il était jeune lui aussi, il est séduit par une jeune personne qui se trouvera être un agent du Mossad, donc qu'il invite à des ébats qui n'auront pas lieu, mais il aura le temps de consommer un narcotique puissant, hein, et il se réveillera dans les prisons israéliennes. Il aura un jugement pour atteinte à la sûreté de l'État. Il a passé 18 ans en quartier de haute sécurité en Israël. 18 ans hein. Il en est sorti maintenant. Et miraculeusement, j'allais dire, il a l'air en bonne santé mentale et tout. Il est interdit d'antenne, il est interdit de voyage et tout. Mais il est vivant. Il a sauvé sa peau, pas plus. Roselyne est tout étonnée. Tu savais pas? Oui, l'histoire de Vanunu, c'est stupéfiant. Bon. Donc, rien que ça, c'était un aveu. La preuve, il l'a payé fort cher, l'aveu. Bon. Vas-y. Oui, vas-y. Ah oui, il n'y a pas de doute, là, on est... Non. Il leur a affiché.
Ouais, le...
Mais effectivement, je vais jusqu'au bout de ta remarque. N'en parle plus, parce que de tout ça, tu ne peux plus en parler. Parce que si tu lances une bombe atomique sur Gaza, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les Égyptiens, il y en a pour les Jordaniens, il y en a pour les Libanais et tout. Et donc, en fait, c'est impraticable d'utiliser. Alors, après, on en serait aux armes atomiques tactiques, les obus. Mais c'est pas ça. Le monsieur qui a dit ça, le ministre, il a parlé d'utiliser la bombe. Hein. Parce que ça fait partie du discours, on les anéantit. Oui, mais ce n'est pas le moyen. Alors, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de les anéantir à petit feu, avec d'autres techniques qu'on connaît, les missiles, etc. Parce que, voilà. Donc, voilà, parce qu'il y en aurait pour tout le monde. Il y aurait des éclaboussures tout autour, hein, ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Hein. Et puis, voilà, des balles perdues. Et en plus, alors, ils sont déjà mal vus au sein de l'opinion internationale. Mais là, s'ils en arrivaient à cette extrémité, le reste, les survivants de l'opinion internationale, c'est-à-dire en excluant les Égyptiens morts, les Jordaniens morts, les Irakiens morts, etc., les survivants les considéreraient comme intenables, insupportables, et on irait nécessairement vers des sanctions, j'espère. Bon. Exactement. Donc c'est un acte irrationnel. C'est un acte irrationnel. Alors cette bombe, je reviens un peu plus tôt dans cette histoire de bombe atomique. Alors pourquoi Israël a voulu la bombe atomique? Et la paternité au moins politique de cette arme, c'est David Ben-Gourion, hein, le premier chef d'État israélien en 1948. Bon. Il l'a voulu, mais évidemment, à l'époque, on est tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et après Hiroshima. Quand il a commencé à dire ça comme ça discrètement, ça n'a pas plu ni aux États-Unis ni en URSS. Hein. Parce qu'à l'époque, il y avait juste ces deux pays-là, plus la Grande-Bretagne, à qui les États-Unis avaient fait cadeau de quelques bombes parce que c'était leurs alliés, leurs amis, leurs parrains. Bon, mais ça n'est pas plus loin. Donc la position en 1948, quand Ben-Gurion arrive au pouvoir des États-Unis et de l'URSS, deux puissances atomiques, ça suffit. Hein, ça suffit, surtout pas les autres. Hein. Bon, alors les autres ont quand même réussi à venir. La France y est arrivée. Parce qu'elle a été désobéissante, c'est tout à fait clair. Hein. C'est pas dire que c'est le bon choix, mais elle y est arrivée. Et puis, d'autres ont suivi, hein, on le sait, le Pakistan, l'Inde et Israël aussi. Donc quand Ben Gurion se trouve face à cette idée de dire « il faut que nous ayons la bombe atomique parce qu'on est tout petit et les autres ne nous veulent pas du bien », alors évidemment les autres ne nous veulent pas du bien parce que vous avez pris une partie, vous avez pris la terre des Palestiniens et vous êtes une espèce d'abcé occidental payé et soutenu par les États-Unis au milieu du monde arabe pour diviser le monde arabe. Tout le monde a compris. Hein, les Syriens, ils ont compris, les Jordaniens, ils ont compris, tout le monde a compris. Bon. Et il se dit, on est faible, donc il faut qu'on montre la force possible, on peut tuer tous les autres, donc on va les calmer comme ça. Qui va jouer ce jeu-là ? La République française. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, on est un peu avant 58, c'est-à-dire que De Gaulle n'est pas encore revenu au pouvoir après les événements donc de mai 58, et la 4e République est finissante et est aux prises avec un conflit dont elle va mourir, effectivement, politiquement parlant, qui est la guerre d'Algérie. Pour les dirigeants de la République française à l'époque, je pense en particulier à Guy Mollet et à quelques autres, qui a été président du Conseil... Oui, Mendès France aussi. Le problème avec l'Algérie, d'abord, c'est de garder l'Algérie. Il n'y a que De Gaulle qui dira « bon, maintenant, il faut les laisser partir ». Mais avant, c'est un discours qu'on ne tient pas. En particulier, il y a un certain François Mitterrand qui est ministre de l'Intérieur et qui va dire très très fort « l'Algérie restera française ». Ça fait partie de l'histoire, de son histoire à lui, mais aussi de son histoire à lui. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le gouvernement français dit en fait le FLN n'est fort que parce qu'il reçoit de l'aide d'autres pays arabes voisins, et en particulier alors de l'épouvantail de l'époque qui s'appelle Gamal Abdel Nasser. Nasser, ouais. Et donc il faut tout faire pour que Nasser se calme, hein, d'où l'expédition que vous connaissez sur le canal de Suez par la Grande-Bretagne, la France, appuyée évidemment par Israël. C'est ça l'idée. Donc il y a un diable arabe qui est sorti de la boîte de la décolonisation qui s'appelle Gamal Abdel Nasser. Et à Paris, on considère que sans Nasser, sans les Égyptiens, sans le charisme politique de Nasser, sans les aides matérielles et tout, le FLN ne pourrait pas gagner la guerre. Et donc, aider Israël qui a donné un coup de main pour le canal de Suez, hein, c'est une bonne idée. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a, dans le courant de début de l'année 58 et la fin de l'année 57, des contacts entre un ministre de la République française, qui s'appelle Maurice Bourgès-Monoury, et les envoyés, donc, en particulier un certain Shimon Peres, qui a mené l'affaire de bout en bout, pour que la France installe une centrale nucléaire. Alors, on ne parle pas de bombe à l'époque, une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, pourquoi la France l'a fournie ? Elle l'a fournie parce qu'elle le fait sur le mode de ses centrales à elle, des premières centrales, qui sont des centrales à uranium naturel et qui fabriquent du plutonium. Voilà le mot-clé, c'est-à-dire le plutonium, c'est avec ça qu'on fait des bombes. Mmh. Bon. Et donc, effectivement, la France dit « OK ». Donc la 4e République, par anti-nassérisme, dit « OK », et les travaux commencent. Effectivement, je crois qu'en 61 ou 62, la centrale en question marche. Et donc, Israël, à partir de ce moment-là, produit petit à petit du plutonium et petit à petit des quantités suffisantes pour fabriquer des armes atomiques. Donc c'est vraiment un complot, on peut appeler ça comme ça, tout ça est très très discret, maintenant ça a été documenté largement. Donc la France a permis à Israël d'avoir la bombe atomique en pleine connaissance de cause. Et ça a un peu embêté De Gaulle, parce que De Gaulle voulait avoir, comme on dit, une politique arabe. Il s'est dit, oulala, ça complique les affaires, mais c'était trop tard, le coup était parti. Mais il n'y avait pas que De Gaulle qui était embêté, les plus embêtés en fait c'était les Américains. Pourquoi ils étaient embêtés en disant « mais là, le petit Ben Gurion, entre guillemets, je ne sais pas comme ça qu'il disait, le petit Ben Gurion, s'il se met à avoir la bombe atomique, ça va compliquer les choses. Hein. Les maîtres de... Nous voulons être les maîtres du Proche-Orient, mais nous, Washington, pas lui. Hein, parce que nous, on est raisonnable, on est puissant, on peut se faire respecter et tout. Lui, il est mal contrôlé. » Et il faut savoir que le fait que Israël reconnaisse, enfin, admette et fasse admettre aux États-Unis qu'il a la bombe atomique, va mettre très longtemps. Et il faut savoir que pendant plusieurs années, Israël va mentir aux États-Unis en disant « Non, nous, on n'a rien, on a juste une petite centrale qui fait de la recherche, des produits pour la santé, des choses comme ça, la lutte contre... C'est tout, vous inquiétez pas. » Et ils se doutent quand même de quelque chose. Ils ne sont pas nigauds à ce point-là. Hein. Mais les Israéliens ne veulent rien dire. Et cette posture du secret, on ne dit pas qu'on a l'arme atomique, elle remonte à cette période-là. Et depuis, elle n'a pas trop bougé, en fait, c'est celle-là. Il faut que les États-Unis soient devant une espèce d'incertitude. Alors, comme c'est des amis, malgré tout, on ne va pas les forcer trop. Il faut savoir qu'il y a eu des tentatives d'inspection de la centrale de Dimola par des hauts fonctionnaires des États-Unis. Alors, on les a, finalement, d'abord, ils ont donné un préavis suffisant, plusieurs jours à l'avance et tout, ils sont venus. Et puis, on a muré les ascenseurs qui descendaient dans les sous-sols.
Exact.
Et donc, on leur a montré le rez-de-chaussée. Tout ça était très clean, très propre, il n'y avait rien à dire. Et en fait, le plutonium était en dessous, dans les étages, mais on avait muré l'ascenseur, on avait passé un coup de peinture, c'était tout propre. Bon, c'est comme ça. Et il faut savoir, alors ça, c'est une des hypothèses, je la mets, ça me paraît être une hypothèse sérieuse, que Kennedy... a menacé Ben Gourion et Israël de dire, d'arrêter. Je veux que vous arrêtiez. Et il y a des historiens aux États-Unis qui disent, à partir du moment où il a dit ça, Kennedy devait mourir. Hein? Voilà. Non, mais ça va très très loin. C'est pas simplement une histoire de bombe par-ci par-là. C'est-à-dire, ça met en cause la qualité et l'intensité des rapports entre Tel Aviv et Washington. Et ça veut dire qu'à un moment donné, à Tel Aviv, on peut envisager d'abattre un président des États-Unis parce qu'il va contre les intérêts d'Israël. Alors, il y avait peut-être d'autres raisons. On a reproché aussi à Kennedy d'avoir arrêté, d'avoir mis un terme au risque d'une bataille avec l'URSS pour Cuba et tout. C'est un autre aspect. Mais il y a des données quand même intéressantes. Il y a des témoignages là-dessus. Il y a des gens aux États-Unis qui ont réfléchi sur la question en disant là, il s'est mis dans une situation dont il n'allait pas pouvoir sortir. C'est-à-dire qu'il avait tout un lobby, parce que ce n'était pas Kennedy, John Fitzgerald tout seul. C'était tous les intérêts sionistes qui étaient déjà organisés sur place, qui disaient on a la bombe et on veut la garder et laissez-nous faire. Hein, bon. Je voulais rappeler ça pour bien situer l'ampleur du problème et pour bien situer comment aujourd'hui cette question de l'arme atomique israélienne doit tracasser encore les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils se disent, si jamais ils font le crime horrible, s'ils font l'erreur, je dis c'est une erreur dramatique, comment on pourrait les empêcher si jamais ils envisagent, puisqu'il y a un ministre qui l'a dit, comment pouvoir les empêcher ? Alors là, je ne sais pas comment, enfin, il doit y avoir une idée, ils ne vont pas la mettre dans les journaux, bien entendu. La seule... information intéressante que je peux mettre sur le tapis, c'est que je crois qu'on était le 8 octobre ou le 9, il est arrivé à Dimona, ce qu'on appelle les commandos Delta de l'armée des États-Unis, qui sont les forces spéciales les plus combattantes, les plus pointues, les mieux formées, etc., qui sont venus s'installer autour de la centrale et du stock de bombes, et la centrale d'extraction de plutonium et du stock de bombes, et qui ont dit « on est là et on ne bouge plus ». Et ils ont eu, parce que ça, ils y arrivent aussi, ils ont dit au Hamas « on ne vient pas contre vous, on vient simplement pour sécuriser l'arme nucléaire israélienne ». Ça veut dire que l'idée du ministre, c'était peut-être une espèce de déception. Lui, il avait bien envie, peut-être Netanyahou aussi, mais comme il sait que de toute façon l'armée américaine a encerclé le stock de bombes atomiques, ben, ils peuvent toujours rêver et dire des sottises à la télévision. Ça ne marchera pas parce que les États-Unis ne veulent pas de ça. Et ils ont raison de ne pas le vouloir. Hein. Heureusement, il y a un minimum de rationalité de ce côté-là. Donc c'est ça que je voulais expliquer, parce que ça, on ne le dit pas. Ça veut dire, c'est très intéressant, ça veut dire qu'il y a un canal qui permet de parler, Washington peut parler au Hamas, et l'autre écoute et l'autre répond, et le Hamas aurait répondu, ok, occupez-vous de ça, hein, nous ça nous enlève un souci hein, de plus, et puis on considère que vous n'êtes pas en guerre contre nous, parce que c'est ça que ça veut dire aussi, hein, on évite l'utilisation de l'arme atomique. Bon, ok, alors pour le reste on continue nos affaires, mais vous n'êtes pas en guerre contre nous, alors ça reste à démontrer parce qu'il y a deux porte-avions et tout le bazar et tout, bon, mais pas sous cette forme-là.
Voilà, très intéressant.
C'était ça que je voulais expliquer.
Important de le préciser.
De bien calculer. Alors, j'en suis même arrivé, parce qu'il y a longtemps que je pousse ces réflexions sur l'arme atomique israélienne, j'en suis même arrivé à me demander si, quelque part, les États-Unis n'avaient pas réussi à avoir le système de commande de l'arme atomique israélienne. C'est peut-être ça qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, oui, ils font les malins en disant on a 80 bombes atomiques et tout, mais si en fait le fameux bouton symbolique sur lequel on appuie pour déclencher, il est à Washington et pas à Tel Aviv, les Israéliens ne vont pas s'en vanter et les États-Unis ne vont rien dire non plus. Hein. Mais ils dormiront peut-être d'un meilleur sommeil, c'est ce que je souhaite et toute l'humanité le souhaite aussi. Voilà. C'est tout pour le nucléaire israélien.
C'est déjà très très bien.
Oui, non, ça cadre un peu les affaires, puis ça donne l'ampleur de ce qui se passe sur le terrain. Il y a les Gazaouis, il y a tout ce qui s'y passe et toute l'horreur. Mais il y a beaucoup d'arrière-plans politiques qui sont là derrière. Exactement.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, le contexte, il y en a d'autres. Il y a ce qui se poursuit. Alors, il y a une trêve, vous le savez, qui a été prolongée quand même. Là aussi, on parle quand même entre Israël et le Hamas. On discute. Hein. Donc, la trêve a commencé. Il y a eu des échanges. Et puis, il y a encore 2 jours de trêve supplémentaires pour augmenter les échanges. Alors, ces échanges, c'est très bien. Ça fait sortir des prisons israéliennes des gens qui n'auraient jamais dû y être. Parce qu'il y a une partie des prisonniers palestiniens qui sont dans des prisons israéliennes qui ne sont coupables de rien du tout. Ils ont été enlevés, ils sont en prison. Il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas de jugement. Ils peuvent y rester 5, 10 ans et tout. C'est Israël qui est seul juge. Donc, c'est des emprisonnements illégaux. Bon. Pas tous, mais pour une grande majorité, c'est ça. Et puis, côté palestinien, ils n'avaient pratiquement personne jusqu'au 7-8 octobre. Parce que rappelez-vous, je ris là-dessus, mais s'il y a, je ne sais plus il y a combien d'années, un soldat franco-israélien a été enlevé par des Palestiniens. Il s'appelait Shalit, je crois, de son nom. Hein. Oui. Vous avez, alors, dans le monde entier, on a vu sa photo sur les écrans de télévision. C'était une affaire mondiale. Hein. Ils avaient un prisonnier. Donc, à force, ils ont fini par le rendre. Il y a dû avoir une négociation pour échanger avec les... Mais c'était à cette échelle-là. Là, on est de l'ordre de plusieurs centaines.
Oh, ouais.
Bon. Et dans ces 100 personnes, et c'est là que ça devient très politique et c'est très intéressant à suivre, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'innocents, c'est-à-dire des mamans qu'on a ramassées parce qu'elles allaient à l'école avec leurs petits, etc. Et puis, il y a principalement des militaires israéliens. Il y aurait même, paraît-il, un général très haut gradé.
Oui, c'est vrai.
Alors là, effectivement, on est plus inquiet parce que qu'est-ce que le général va dire au bout de quelques jours de prison ? Ben, on ne sait pas. Hein. Et donc là, on voit bien qu'il y aura une partie qui a lieu, donc échange de prisonniers, j'allais dire, sans importance politique. Je suis très content pour tous ceux qui sont libérés, de tous les côtés. Hein. Mais les prisonniers importants, ils ne sont pas prêts de sortir, parce que là, la négociation devient très très sérieuse, elle est très politique. Hein. Un général israélien, ils n'en ont jamais eu entre les mains. Hein. Bon. Et donc, la monnaie d'échange, elle a un prix extrêmement élevé et ça permet de peser sur la suite des négociations parce qu'il faudra bien déboucher sur...
La trêve s'allonge.
Voilà. Oui, bon. Ou la trêve ne se prolongera pas, encore que Netanyahou tourne autour du pot.
Je ne sais pas s'il n'y a pas l'arrêt.
Il biaise parce qu'il a des ministres qui disent non, on va continuer. Lui, il commence à dire on va voir, etc. Parce que ça leur fait trop mal d'avoir un général en prison et puis quelques soldats et quelques officiers et tout. Parce que ça ne leur est jamais arrivé. Et ça montre que le rapport de force militaire, parce que là, ça a été très bien joué par le Hamas. Ils ont pris ce qu'il fallait au bon moment. Et là, ils ont une arme politique de grand poids comme ils n'en ont jamais eu. Ça donne donc une autre perspective à la suite des événements. Alors, ça ne guérit personne, ça fait revenir aucun mort. Tout ça est en même temps horrible. Ouais. Mais tout ça, et il faut donner le niveau politique de cette situation qui est un niveau extrêmement élevé. Et puisque j'en suis au niveau humain, puisque je fais une petite comparaison qui a été faite, parce qu'on est à, je crois, 15 000 Palestiniens Gazaouis tués.
20 000.
Hein. J'ajoute
qui sont dans les décombres.
Voilà,
et tout,
voilà, on n'y est pas. J'ajoute qu'il y a aussi des difficultés, des meurtres en Cisjordanie, ou au moins des arrestations. Il y a eu, pendant la trêve, 50 arrestations de Palestiniens par des colons qui voulaient la place. Bon. Depuis le 7 octobre, il y a 250 Palestiniens qui ont été arrêtés, qui étaient donc des gens qui vivaient sur leur terre en Cisjordanie. Bon, pour l'instant, ils sont en prison. Ça continue, on n'en parle pas, mais ça continue aussi.
Ça continue, je vais dire par là que les Hamas ne sont pas dupes. Ils ont dit, on veut les anciens prisonniers.
Voilà,
ceux qui sont...
Depuis longtemps.
Oui, voilà, depuis longtemps.
Alors ça donne à réfléchir à un certain nombre de chiffres. Parce que j'ai cherché et j'ai trouvé. En fait, il y a eu des estimations sur le nombre de morts civiles en Ukraine depuis le 24 février 2022. Alors, je vous donne le résultat de cette mort civile. Hein, je ne parle pas. Il y a une guerre en Ukraine, c'est clair, on sait. Il y a eu deux armées face à face. Les morts civiles, il y a 10 000 morts civiles en 18 mois.
Voilà.
Là, on est à 20 000 morts en 6 semaines.
En 40 jours.
Voilà. Bon. Ouais. Donc, on ne parle pas de la même chose. Hein, ouais. On ne parle pas de la même chose, c'est à une autre ampleur. Ouais. Je voulais le dire pour bien situer la différence des choses et pour bien surtout éviter ce parallèle trop facile entre la situation ukrainienne et la situation palestinienne. Ce n'est pas du tout la même chose, en ce sens qu'effectivement, et je le redis, la Russie et l'Ukraine s'affrontent militairement avec deux armées face à face. Alors une armée ukraino-otanienne, ça on le sait, armée, financée, etc. Et puis une armée russe, elle aussi, officielle tout à l'heure. Ils ne s'affrontent, et c'est ça qui est très important à souligner, ils ne s'affrontent qu'à l'intérieur des provinces qui, par référendum très majoritaire, ont décidé de rejoindre la Fédération russe. On ne se bat pas autour de Kiev, autour de Kharkov, autour d'Odessa. On se bat dans le territoire des républiques qui sont devenues
russes. Des Russes.
Voilà. Et donc, en fait, on ne peut pas reprocher au gouvernement russe de défendre les citoyens de provinces qui ont décidé de rentrer dans la Russie. Et la Russie, les instances, le pouvoir, le gouvernement, le Parlement, les ont acceptés. Hein ? Parce que regardez la ligne de front et regardez la carte. En fait, la ligne de front, elle passe au milieu, enfin, à l'intérieur des provinces de Kherson, de Zaporoye, et un petit peu encore à l'intérieur des provinces du Donbass. Bon, donc on est en territoire russe et il y a une armée ukrainienne qui est installée sur une partie du territoire qui aujourd'hui est russe. Bon, là, il y a une guerre, tout à fait, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors le moins classique, c'est qu'effectivement, cette guerre est menée par des Ukrainiens mais qui n'en ont plus les moyens, et donc ils sont obligés d'avoir une aide considérable de l'extérieur et qui sont surtout, et c'est là que c'est un peu horrible, c'est qu'ils sont en train de consommer leur capacité humaine, c'est-à-dire que le ministre actuel de la guerre ukrainien qui est en désaccord, qui est fâché un peu avec Zelensky, parce qu'il dit, si vous voulez que je continue, il me faut 20 000 hommes frais, tous les mois. C'est-à-dire frais, ça veut dire, et on sait, après maintenant on a l'expérience de ce qui s'est passé depuis le mois de février, 20 000 hommes frais, ça veut dire qu'il y en a 18 000 qui à la fin du mois seront morts. Hein. Et donc je veux continuer. Mais il n'y a plus, il faudra, j'ai regardé la pyramide démographique ukrainienne, il n'y en a plus des enfants. Hein. On en est à un niveau, je vous donne une idée, de 100 000 enfants par année, donc par génération, alors que traditionnellement on était à 300 ou 400 000 quand l'Ukraine était en paix. Bon. Donc il n'y a plus d'enfants. Et donc, le ministre de la Défense, il dit, mais avec qui je me bats ? Alors, effectivement, on sait qu'il y a des mercenaires qui viennent ici et là, mais il y en a d'ailleurs un certain nombre qui repartent en disant, c'est l'enfer, on n'est pas, c'est une guerre de fous, hein, mais il sait qu'il ne va pas y arriver. Bon. Donc ça resitue clairement le contexte politico-militaire dans lequel on se trouve. Hein. Il s'agit bien d'une guerre sur le territoire de province de la Fédération de Russie menée par une armée qui est une armée d'invasion. Là, c'est l'Ukraine qui envahit le territoire de la Fédération de Russie parce qu'elle voudrait que ce territoire revienne chez elle. Mais allez demander aux habitants, ils n'ont évidemment pas envie. Hein. Surtout dans l'état où est l'Ukraine actuelle et son gouvernement.
Oui,
il fallait bien quand même clarifier ces choses-là. Ah ben oui. Mais évidemment.
Ah ouais.
Bien sûr. Non, ils ont beaucoup de peine à recruter. On sait que l'âge moyen des soldats ukrainiens au front est de 43 ans aujourd'hui. Il y a des gens qui devraient ne plus être au service actif, mais il n'y a plus personne.
Il y a eu beaucoup de morts. Hein.
Voilà. Alors ils essayent maintenant, ils embauchent des femmes autant que possible. Mais toutes les femmes en particulier qui ont pu fuir l'Ukraine l'ont fait. Ça a été relativement facile puisque les pays de l'Union européenne leur ont ouvert facilement les portes, on le sait. Donc que ce soit par la Roumanie et la Moldavie, que ce soit par la Slovaquie, la Pologne, etc. Bon. Mais en soulignant, alors ça je ne veux pas enfoncer le fer dans cette plaie, c'est tellement triste, que ces pays d'accueil des Ukrainiens, parce que l'Union européenne a dit on les accueille bras ouverts, nos règles, Schengen et tout ça, ça ne compte pas, bienvenue les Ukrainiens, il y a dans ces pays des gens qui commencent à trouver qu'on leur a fait beaucoup, beaucoup de facilités et qui ne sont pas forcément faciles à vivre. Mais je ne rentre pas dans ce débat, il est connu et c'est un vrai problème. Hein. Et ça s'ajoutera, et ça commence déjà à s'ajouter, des considérations de type économique, c'est-à-dire que les Polonais, paysans polonais, ouvriers polonais et tout, qui voient le niveau de pauvreté dans lequel ces Ukrainiens qui fuient arrivent et tout, et qui disent qu'est-ce qui va se passer après quand la guerre sera finie, ben on va avoir des gens qui vont gagner pour survivre la moitié de ce que je gagne moi dans mon champ polonais. Hein. Le résultat, c'est que je ne vais plus pouvoir vendre mes produits. On a déjà ce problème-là. Il y a encore des terres à blé dans la partie ukrainienne de l'Ukraine qui produisent. Et donc, dans les circonstances actuelles, le blé ukrainien casse le prix sur les marchés internationaux. Et donc, les Polonais commencent à dire, mais nous, on mange avec quoi, hein, etc. Bon. Donc, il y a un vrai problème, c'est-à-dire l'accueil à caractère politique de la population des réfugiés ukrainiens, appelons-les comme ça, a fait qu'on a bouleversé tout l'équilibre fragile de ces pays de l'Europe occidentale et que maintenant, ils commencent à ouvrir les yeux en disant « mais c'est bien joli, on soutient l'Ukraine jusqu'au bout, mais là, ce n'est pas du tout notre intérêt en tant que pays riverain de, voilà, frontalier ». Voilà, un petit développement qui était, qui n'était pas prévu. Et puis, ça nous amène, alors, cette question de la liberté de circulation des Ukrainiens, à regarder un nouveau concept qui est en cours, qui s'appelle le Schengen militaire. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça, c'est la suite. Alors, Schengen, vous savez, Voilà. Alors Schengen, vous savez, c'est la liberté de circulation sur l'espace Schengen, donc une partie du territoire de l'Union européenne où les citoyens peuvent aller et venir librement. Il n'y a pas de contrôle aux frontières, on ne montre pas son passeport, tout ça, vous le connaissez et vous en avez peut-être déjà profité. C'est vrai que pour le touriste, c'est agréable, dire je vais, je rentre en Italie, je vais en Espagne, etc. Bon, ça vous le connaissez. Bon. Mais quand on parle d'un Schengen militaire, on se dit mais d'où sort ce concept qui est nouveau ? Alors il s'agit du concept suivant. Il s'agit pour les États-Unis, les patrons de l'OTAN, de pouvoir faire circuler librement leur matériel militaire de toutes sortes, à part les avions, sur le territoire de l'Union européenne pour arriver jusqu'à l'Ukraine. Parce que c'est bien ça, leur objectif, c'est d'armer l'Ukraine. Et il se trouve qu'en matière militaire, les frontières européennes, ça existe encore. C'est-à-dire que vous allez à la frontière italienne, franco-italienne, à Menton, vous arrivez avec un char d'assaut, on va vous demander des comptes. Hein. Vous ne passerez pas, hein, parce que ce n'est pas prévu. Schengen, c'est pour l'activité civile. Hein. Et donc, l'idée du Schengen militaire, c'est de dire il faut que les pays européens arrêtent et ferment les yeux là-dessus. On veut pouvoir passer du matériel à jet continu à travers l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque, etc., pour arriver sur le lieu du combat. Parce que là, ils savent que sur le lieu du combat, il y a énormément de casse. Il y a beaucoup de matériel OTAN qui a été détruit par l'armée russe. Et donc, il y a un manque réel, outre le manque de soldats. Voilà ce qui est dans les esprits de nos dirigeants, le Schengen militaire, libre circulation des armements. Oui, ben on fait comme s'ils avaient... Tout à fait. Voilà, c'est tout. Voilà, vous obéissez, puisque Washington a décidé...
Oui, mais ce n'est pas les pays individuellement, c'est l'Union européenne. Schengen, c'est l'Europe.
Oui, ça serait une disposition. Voilà. Ça veut dire aux pays de l'Union européenne, abaissez vos barrières militaires. Il n'y a plus de contrôle des circulations de matériel militaire, surtout dans le sens ouest-est. Hein, et donc, laissez passer, hein, parce qu'autrement, on est en manque. Voilà. Ouais. C'est ça l'idée. Voilà, on va en attendre. Voilà, pour faire une petite pause, on va passer une petite musique palestinienne. Merci, Brandon.
على ديني على أرض تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
Habib, tu vas nous dire l'essentiel des paroles de cette chanson. On t'écoute.
Oui, ce qu'il voulait dire, qu'il appelle à tous les Palestiniens et au monde arabe. Voilà. Comme quoi la Palestine, c'est vraiment la cause principale de tout ce qui arrive. Mon sang est toujours palestinien. Voilà.
Très bien. Alors, j'en profite parce que je voulais donner lecture, peut-être pas de l'intégralité, mais d'un propos de l'ambassadeur de la République arabe syrienne qui a participé à une réunion de la Ligue arabe, ces jours-ci, où il était question, effectivement, de la Palestine. L'ambassadeur, donc, qui s'appelle M. Ala, a déclaré aujourd'hui dans son allocution devant la 5e session du Conseil arabe pour la population et le développement du niveau ministériel au siège de la Ligue des États arabes au Caire. Voilà, je lis. L'agression israélienne contre la bande de Gaza fait partie d'un tableau plus large qui ne doit pas être oublié, c'est-à-dire la nécessité de mettre fin à l'occupation israélienne de la Palestine et du reste des territoires occupés. Il a expliqué que le cancer de l'occupation est l'essence du problème et que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, malgré sa laideur et sa brutalité, est l'une des conséquences de cette épidémie à laquelle il faut faire face collectivement, efficacement et y mettre un terme. Et il a ajouté « L'agression brutale lancée par l'entité d'occupation israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et à son extérieur » accompagné de crimes de guerre et de génocides commis dans le cadre de la politique de la terre brûlée qui met le peuple palestinien devant le choix de la mort par bombardement ou du départ forcé de leurs terres et de la liquidation de la cause palestinienne, nous appelle à œuvrer pour traduire le contenu de la déclaration publiée par le sommet arabe et islamique de Riyad en programme d'action spécifique pour soutenir la fermeté du peuple palestinien et répondre à ses besoins fondamentaux. Je voulais le lire parce que j'insiste sur la position extrêmement ferme de la Syrie qui dit aux autres gouvernements arabes « Les bonnes paroles, c'est bien de dire cessez le feu, etc. » Mais il faut aller plus loin. Il faut prendre des mesures pour que ça s'arrête. Hein, des vraies mesures. Et pas continuer comme le font certains. Je cite personne, mais continuer à acheter des armes à Israël, continuer à avoir des échanges économiques, à se faire des petits clins d'œil dans les coulisses, etc. C'est ça que la Syrie dit. On ne veut pas de ça. Parce que là, vous dites que vous êtes pour les Palestiniens et en fait, vous torpillez leur lutte. Hein. Nous, on ne le fait pas. Et j'ajoute à ce sujet que la Syrie ne l'a jamais fait, puisque dès 1947, à l'ONU, devant l'Assemblée générale, quand l'ONU a décidé de la création des deux États, il y a quelques États qui ont voté contre, ils étaient minoritaires. Il y avait l'Inde, qui venait d'être indépendante, hein, et puis il y avait la Syrie, qui venait aussi d'être indépendante. Et la Syrie, depuis 1947, n'a pas bougé de sa position.
Elle a dit, elle l'a payé cher.
Voilà, elle l'a payé cher. Il y a là un espèce de cancer qui a été mis par l'Occident dans le monde arabe et ce cancer est destiné à tous nous affaiblir, voire à nous tuer. Ça, elle est le seul à le dire et c'est pour ça que je voulais lire cette position de l'ambassadeur de la République arabe syrienne. Et puis, je voulais vous parler de ce qui se passe tout autour, parce que là, il n'y a pas que la Palestine, mais tout est en mouvement autour. Alors, d'abord, il y a eu cette fameuse réunion des BRICS qui s'est tenue mardi dernier, au moment où nous étions à l'antenne, et qui est donc une réunion des BRICS convoquée par le président d'exercice, donc le président sud-africain Ramaphosa, à laquelle ont participé en vidéo le président chinois et le président russe, le président brésilien aussi, et puis où tous les membres des BRICS étaient présents. Était présent alors sous deux formes diverses, c'est-à-dire il y avait des chefs de gouvernement, des chefs d'État, soit en vidéo, soit en direct, surtout en vidéo la plupart, et il y avait aussi alors deux États sur lesquels je m'arrête parce qu'ils étaient dans une position un peu délicate. Le premier, c'est l'Inde. Alors l'Inde n'est pas en position délicate parce qu'il y a eu des élections ni quoi que ce soit, elle est en position délicate parce que les liens de l'Inde dirigés par le BJP de M. Modi avec Israël sont très étroits. Sont très étroits et ça s'explique par une réaction qui est presque, j'allais dire, puérile et infantile, c'est-à-dire qu'en fait, le parti de M. Modi, Premier ministre indien, il n'aime pas les musulmans. Hein, parce que d'abord, il y en a trop encore qui considèrent sur le territoire de la République indienne. Hein, il en reste quelques 150 millions au détail. Hein, bon, mais il n'a jamais. Enfin, M. Modi ne s'est pas remis, et son parti, donc c'est la droite indienne, ne s'est pas remis du découpage de 1947 entre le Pakistan et l'Inde. Et en fait, quand il était non pas Premier ministre, mais gouverneur d'une province, il a mené des actions anti-musulmanes caractérisées. Bon, donc, ça l'amène tout droit à tomber dans les bras d'Israël, et il y est. Et donc là, quand on lui dit de signer un communiqué condamnant Israël, il n'y arrive pas. Bon. Alors ça, ça va se dénouer petit à petit, mais on n'en est pas là. Et donc, le sommet des BRICS s'est terminé sans communiqué commun, puisqu'il y avait cette réticence qui n'a pas été exprimée. Je dis pourquoi, parce qu'il n'y a pas de secret. Hein, ça n'a pas été exprimé officiellement en disant « l'un ne veut pas signer une condamnation d'Israël », parce qu'elle ne peut pas, politiquement, elle ne peut pas. Hein. Et il est resté l'Argentine. Alors l'Argentine, c'est un peu particulier, puisqu'il y avait là le ministre des Affaires étrangères, mais c'était le ministre des Affaires étrangères du gouvernement sortant, donc il n'allait pas prendre une position qui allait engager l'Argentine, qui dans 3 semaines va changer de gouvernement, et peut-être aussi d'orientation par rapport au BRICS. Ça, on verra. Hein. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de communiqué final de soutien à la résistance palestinienne dans le, à l'issue de ce sommet des BRICS. Mais par contre, le président sud-africain qui avait invité à la tenue de cette réunion a quand même dit un certain nombre de choses à son compte personnel. Il a dit, moi, en tant qu'organisateur de cette réunion, voilà ce que je tiens à dire. Il y a eu des crimes de guerre. L'État d'Israël ne respecte pas les conventions de Genève. Il ne s'intéresse pas à une solution politique de la question palestinienne. Et il s'est ajouté à ça un commentaire du président chinois qui a dit « Je rappelle qu'il faut qu'il y ait un État palestinien. Je rappelle qu'il faut que la population palestinienne soit respectée en tant que telle. »
D'ailleurs, la Chine, elle préside le Conseil de sécurité actuellement. Voilà. Ouais.
Et il a rappelé que les Palestiniens avaient le droit au retour. Tous ceux qui ont été chassés ou qui ont fui parce que c'était trop inconfortable ou invivable ont le droit au retour. C'est écrit dans les résolutions de l'ONU, il n'y a pas de souci. Quand le président chinois le rappelle en disant « c'est ça ma position, je ne bougerai pas de cette position-là », ça pèse lourd. Alors le droit au retour, alors il y a des gens qui disent « c'est pas possible » parce qu'effectivement depuis 1948, il y a des centaines de milliers de Palestiniens qui sont partis parce que la vie était intenable, parce qu'ils avaient trop perdu de gens dans leur famille, etc. Il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, il y en a en Amérique latine, il y en a dans le monde entier. Bon. Alors il y a des bons esprits, mais que je trouve un peu limite dans leur façon d'analyser les choses, qui disent « le droit au retour, c'est pas possible, il y en aura trop qui reviendront ». Ça ne veut pas dire ça. C'est un droit au retour. Ce n'est pas une obligation de retour. On ne va pas dire aux gens qui, depuis 3 générations, ont fait leur vie au Canada, venez vous installer de force en Palestine. La place manquerait peut-être, d'ailleurs. Mais le droit, tous ceux qui voudront revenir, reviendront. Hein. C'est la seule chose qu'il dit, mais c'est essentiel.
Ils sont libres.
C'est essentiel. Mmh. Et ça, Israël ne veut pas en entendre parler. Parce que ça ferait encore... Alors pour l'instant, Israël a les yeux sur la balance démographique. On est à 6 millions d'Israéliens à peu près et 6 millions de Palestiniens. Hein. Donc il dit, s'il arrive 1 million de plus, on perd la majorité.
Non, tous les Palestiniens en dehors, hein, en aussi dehors. Bien dedans... Il y a 15 millions.
Voilà, donc c'est ça. Alors là, ils ont les cheveux qui se dressent sur la tête, c'est pas possible.
Mais tous ces gens, ils vont pas revenir.
Ça se ferait pas. Ça se ferait pas. Mais ça serait des amis, et puis ils pourraient venir, ils pourraient nouer des relations, ils pourraient aller venir tranquillement, ce qui est pas possible aujourd'hui, facilement. Voilà, tout ça. Donc le président chinois a bien fait de rappeler ces données-là. Un État, un respect de la population et le droit au retour de ceux qui voudront l'exercer. On peut pas être plus clair. Ça, c'était un petit aspect de l'activité des BRICS. Donc, il y a eu cette tentative. Alors, je souligne parce que c'est la première fois où les BRICS, c'est donc à l'initiative du président sud-africain, qui a de bonnes raisons de se mêler de ce genre d'affaires parce que l'apartheid, il sait ce que c'est. Hein. Donc, c'est la première fois que les BRICS tentaient une prise de position politique collective. Jusqu'à présent, on parlait surtout économie, relations, etc. Là, c'était... Bon, alors, ça n'a pas abouti en ce sens qu'il n'y a pas eu tout de suite une position, mais ça permet de clarifier les positions et ça permet de faire évoluer ce BRICS dans une autre direction qu'il n'avait pas encore prise. Mmh. Ça, c'est tout à fait important. Et les BRICS ont toujours beaucoup de succès. Alors, je vais revenir sur l'Algérie parce que la semaine dernière, il y a eu un coup de téléphone d'un animateur de la radio qui disait « on n'a pas parlé de l'Algérie ». Alors, l'Algérie, et donc j'en ai reparlé tranquillement avec lui, l'Algérie n'a pas posé de plainte à la CPI contre l'État d'Israël. Pourquoi ? En gros, et on comprend les raisons, l'Algérie d'abord a des relations encore relativement étroites avec la France. Des relations économiques, hein, il y a du gaz, du pétrole, etc. Il y a une pression extrêmement forte exercée par l'Élysée et le ministre des Affaires étrangères français sur l'Algérie pour qu'elle ne passe pas complètement dans le camp pro-palestinien. Alors ils savent bien que la tentation est forte, qu'au niveau de la population, il y a une très forte attente, mais il y a une tentative de freiner ce mouvement-là. Alors paradoxalement, c'est plus au Maroc que la situation évolue qu'en Algérie. C'est-à-dire au Maroc où la position pro-israélienne du gouvernement marocain était affligeante, navrante, mais elle était très très clairement énoncée. Là, c'est en train de changer avec d'énormes manifestations de rue et un souverain malade qui se tait. Hein, c'est-à-dire que sa politique pro-israélienne, il n'ose plus en parler. Bon. Donc on a des évolutions qui ont lieu. Alors, sur l'Algérie, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a beaucoup de gens, et des hauts fonctionnaires, et des gens placés dans l'appareil algérien, qui disent, de toute façon, on ira au BRICS. Notre dossier est prêt, on s'expliquera, il faudra qu'il y ait un certain nombre de clarifications sur des points, alors, on va discuter avec les BRICS, mais on finira par y rentrer. C'est ce que je pense se passera dans le prochainement dans la prochaine ouverture. Un autre pays vient de poser...
Excuse-moi, Bernard. L'Algérie, elle n'a pas contribué à apporter des documents, etc., à la plainte en cours, à la CPI actuellement.
Mais elle n'a pas déposé plainte en tant qu'État, comme les cinq autres. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, les cinq autres, en particulier, je rappelle que le leader des cinq autres, c'est l'Afrique du Sud, parce que quand on parle d'apartheid, qui mieux que l'Afrique du Sud peut savoir ce que c'est et ce que ça représente pour une population?
Et le génocide lui-même, comment on peut le définir? Parce que c'est complexe au CPI. Alors c'est vraiment complexe aussi.
Quelques mots sur le génocide. Quelques mots vite fait sur le génocide. D'abord, il faut savoir qu'il y a une convention internationale contre les génocides. Convention internationale qui a été signée en 1948 et mise en vigueur en 1950, puisque la majorité des États à l'époque installés à l'ONU l'ont ratifiée. Donc cette convention existe, mais elle n'a jamais été vraiment appliquée. Et il y a un vrai problème, c'est qu'il y a un certain nombre de pays, dont Israël, qui considèrent qu'il est le seul pays à avoir été victime d'un génocide. C'est-à-dire, il y a eu des débats là-dessus, je ne vais pas trop m'étendre, mais il a été question du génocide des Arméniens. Les Israéliens ont dit, c'est un détail. Comme les Turcs disent la même chose, on est arrêté là. Le génocide des Tutsis, il ne s'est rien passé. Ouais. Hein. Donc pour l'instant, cette convention a été gelée, en fait, dans son usage juridique par la position d'Israël qui dit, le seul génocide, c'est le mien. Hein. Je pense qu'on en sortira. Donc, on ne peut pas aller très très loin dans ce système de génocide, encore qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Ça a été clairement défini par la Cour internationale de justice. On a les bases juridiques pour en parler. Ça évoluera.
Bah, il paraît qu'il y a plus de 500 avocats actuellement qui s'en occupent. Voilà. J'ai entendu.
Voilà. Alors, à ce propos-là, on peut annoncer, sans avoir encore la date, qu'on aura une émission probablement spéciale consacrée à ce sujet des actions juridiques contre l'État d'Israël et sa politique criminelle dans le courant du mois de décembre. Ouais, c'est prévu. J'en étais là à parler des BRICS pour dire donc le Nigeria a été candidat. Et puis, je voulais parler des mouvements divers qui ont lieu autour de la Russie. C'est assez intéressant à suivre. Ouais. Il y a eu une réunion de l'Organisation du traité de sécurité collective qui est donc traité de sécurité collective, ça dit bien son nom, militaire, qui concernait une bonne partie des anciennes républiques soviétiques. On était membre, alors je le dis de mémoire, je l'oublie peut-être, la Biélorussie, la Russie, donc la Fédération de Russie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Bon. L'Arménie, pour la première fois, qui est membre de ce traité, qui lui assurerait une protection militaire en cas d'agression par un État voisin. Hein, l'Arménie serait protégée par l'armée russe si, par exemple, l'Azerbaïdjan ou la Turquie l'agressaient. Bon, elle n'est pas venue à la réunion. Ça veut dire quoi? Alors, je le dis et j'insiste là-dessus, parce que ça veut dire que la République française, à la demande des États-Unis, est en train de donner des chèques au Premier ministre arménien et de lui envoyer de l'armement. C'est-à-dire que la France joue la guerre en Arménie. Ouais. À la suite de l'affaire du Haut-Karabakh, sur laquelle je me suis déjà expliqué. Donc, en fait, là encore, la France sert de petit chien qui mène la politique de Washington à ses frais, hein, parce que c'est un des dons gratuits de la République française qui, on le sait, est très très riche. Hein, tout va très bien en France, il y a de l'argent partout, etc. Hein, et des avances de matériel militaire pour l'Arménie. Ça fait partie du jeu de M. Pachinian, le premier ministre arménien, qui, depuis qu'il est au pouvoir, essaye de faire avancer la politique américaine dans cette région pour faire de la peine à ses voisins. Par contre, les voisins, ils sont organisés, donc ils se sont réunis à l'intérieur de l'Organisation du traité de sécurité collective. Et puis, ils se sont réunis aussi, et ça, c'est intéressant à noter, il existe aussi une association dont on parle moins, qui a moins de lustre, probablement moins d'importance réelle, qui est une association des des pays d'origine turque de, la, de cette région du monde. Alors, qui c'est les pays d'origine turque? Ben, c'est ceux qui sont linguistiquement liés à la langue turque, ou le turkmène, enfin,
patois,
qui a tout
quoi,
un...
Oui.
Voilà. Et donc, ça, ça part de l'Azérie, donc des gens d'Azerbaïdjan. Ça continue vers l'est avec la Turquie. Ensuite, ça continue vers l'est avec le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, puisque le Tadjikistan, lui, est de langue perse et donc ne fait pas partie des républiques à consonance turque, j'allais dire, pour faire ça. Bon, alors ils se sont réunis. Ça a été intéressant parce qu'ils se connaissent et ils ont des points communs qui sont cette langue turque et puis l'islam pour la majorité d'entre eux. Et puis il y a un petit, j'allais dire, un canard dans la couvée qui est le président du Turkménistan qui se veut neutraliste. Alors c'est un personnage assez intéressant. Alors, le Turkménistan, c'est un grand désert avec beaucoup de gaz sous le désert. Mais des quantités énormes, peut-être les troisièmes, deuxièmes réserves mondiales de gaz. Et donc, il y a, je crois, 6 millions d'habitants au Turkménistan. C'est donc un pays qui est riverain de la mer Caspienne et qui se veut indépendant. Alors, il n'est dans aucun des traités, pas la sécurité collective. Il fait que des affaires, il vend du gaz aux Chinois, etc., mais c'est tout. Et dans cette réunion des pays turcophones, j'allais dire, pour faire simple, ben c'est même si pas la même langue turque à Ankara et à Istanbul, il a dit non, mais moi je me mélange pas de vos affaires politiques, moi je suis autonome, je suis neutraliste, je suis ami avec personne, je défends mon pays et mes intérêts. Et en fait, il a un peu mis du désordre dans le système parce que les autres voulaient pousser dans le sens, il y a une solidarité, et c'était dans le sens d'Erdogan en gros, une solidarité des pays du rameau turc, pour faire simple, pour avancer dans la politique régionale. Ça n'a pas marché. Ça ne marchera de toute façon pas parce que ces pays que je viens de citer sont tous très différents. Le Kazakhstan, c'est immense, mais il y a quand même presque 40% de Russes encore au Kazakhstan. Donc, il a une politique qui n'est pas nécessairement une politique islamiste, pro, etc. Bon, et donc, chacun a sa particularité. Et comme il y en a en plus, là, qui est mauvais coucheur, qui veut vivre tout seul, qui est M. Gurbanguly Berdimuhamedov... Qui est le chef d'État du monde qui a le nom le plus long.
Le long, oui.
Gurbanguly Berdimuhamedov. Voilà. Bon, c'est extraordinaire.
À tes souhaits.
Voilà. Bon. Donc, ça n'a pas marché, quoi. Ça n'a pas marché. Voilà ce que je voulais dire. Dernière chose que je voulais citer. C'est un petit mot que j'ai pas dit sur l'Ukraine, mais ce qui est très très intéressant, c'est qu'effectivement l'armée russe vient à nouveau de reprendre un petit morceau du territoire de ses propres républiques, le morceau comme Advika, je sais pas comment on le prononce, et donc ça veut dire que le front à l'intérieur du territoire russe, je reprends mon analyse, est en train de progresser, c'est-à-dire la Russie est en passe de conquérir le territoire de ses propres républiques. À aucun moment, l'état-major russe, pas plus que Poutine, pas plus que personne, n'a dit « je veux envahir Kiev ». C'est pas à l'ordre du jour. Là, on est chez nous, c'est nos républiques, c'est nos provinces, on est maître chez nous et on pousse l'armée d'occupation à l'extérieur. Voilà ce que je voulais dire. On se retrouvera mardi prochain. Merci encore, Brandon. À bientôt.
À bientôt. Merci à vous.
Au revoir.